Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 du podcast Quand dit la Bible. C'est vrai que ça faisait longtemps, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Franchement là, je vous ai préparé un épisode de qualité. J'espère que ça va vous encourager, vous édifier, que ça va vous plaire. En tout cas, installez-vous bien, mettez-vous à l'aise et c'est parti. Alors vous l'avez compris, dans cet épisode, on va parler de la réussite et on va tenter de répondre à la question: quelles sont les clés que Dieu nous donne dans la Bible pour réussir? Alors dans un premier temps, on va définir qu'est-ce que la réussite, puis on va voir ensuite quelles sont les clés, les principes que Dieu nous donne pour atteindre cette réussite. Aujourd'hui, la réussite, ça rime souvent, et même j'ai envie de dire quasiment tout le temps, avec richesse, célébrité et pouvoir. Ça, pour s'en apercevoir, il suffit de se balader 2 minutes sur Insta, et checker les comptes de personnes qui, selon l'opinion publique, ont réussi, et de voir que ces gens, bien souvent, flexent quoi, et font l'étalage de leurs biens matériels, que ce soit en termes de voitures, de vêtements de marque ou de maison. Mais pourtant, on compte plus les exemples de célébrités qui, justement, cumulaient argent, notoriété et pouvoir, mais qui, malgré les apparences, souffraient en silence de solitude, de dépression, et étaient même victimes d'addiction. Là, je pense particulièrement à Marilyn Monroe, par exemple, ou Whitney Houston. Et d'ailleurs, je regardais dernièrement une vidéo qui disait que, dans ses écrits personnels, Marilyn Monroe disait qu'elle se sentait seule. Et beaucoup de ces célébrités-là sont mortes dans des circonstances tragiques. Le fait de vouloir réussir sa vie, c'est pas une mauvaise chose en soi, pas du tout, au contraire. Mais encore faut-il savoir qu'est-ce que la réussite selon Dieu et non pas selon le monde, et comment y parvenir. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on va commencer par définir qu'est-ce que la réussite. Alors, selon le Larousse, la réussite, c'est un succès, un résultat favorable ou une entreprise, une action, une œuvre qui connaît le succès. Le problème, c'est que dans la Bible, il n'existe pas de définition précise de la réussite, mais on peut quand même trouver à quoi elle correspond. Parce qu'en fait, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et nous a donné à tous une espérance, un cap à suivre et une mission grâce à sa parole et au sacrifice de son fils Jésus. Et donc du coup, la réalisation du plan, de la mission que Dieu nous a donnée, constitue la réussite que Dieu veut pour nous. Dieu sait que la réussite, elle se manifeste sur plusieurs aspects, donc c'est-à-dire spirituel, relationnel, émotionnel, professionnel, mais aussi sentimental, financier, etc. Et le fait de suivre ce plan regroupe tous ces aspects. Bon, après, là, je tiens quand même à nuancer parce que ça ne veut pas dire, par exemple, qu'on va tous finir riches, non. Mais Dieu nous incite à lui faire confiance parce qu'il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Et parce qu'il n'a pour nous que des projets de paix et de bonheur. Mais suite à tout ça, on peut se demander en quoi consiste la réalisation de ce plan. Alors la réalisation de ce plan, ça consiste en fait à marcher avec Dieu. Ça on peut le voir notamment dans Josué 1 au verset 8. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire se laisser transformer par Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Mais ça veut aussi dire utiliser les dons, les talents, les aptitudes qu'il nous a données pour qu'on puisse les mettre à son service et aussi au service de notre prochain. Et c'est ça qui va nous amener progressivement à la réussite, pas celle du monde, mais celle de Dieu, qui se conclura par notre salut. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très facile de se tromper de réussite, de penser que réussir, c'est juste chercher à amasser les billets et chercher à être connu. Mais on a vu juste avant que c'était pas vraiment ça. Et on a un verset qui, dans Marc 8, au verset 36, qui nous montre un peu cette idée, qui nous dit « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Et justement, dans la Bible, ce qui est bien, c'est qu'on a des principes, des clés pour pouvoir réussir comme Dieu le veut. Alors, quelle est la première clé biblique pour pouvoir réussir? Attention, roulement de tambour, c'est la foi. Pourquoi? Parce que avec le sacrifice de Jésus, Dieu nous a donné la possibilité d'être sauvés d'une mort qui nous attendait en tant que pécheurs après que le péché soit entré dans le monde avec la désobéissance d'Adam et Ève. Et grâce à ce sacrifice, l'opportunité d'être sauvé est maintenant à notre disposition. Et il nous suffit, là je précise vraiment entre guillemets, d'avoir la foi pour l'obtenir. Mais bien entendu, cette foi, elle doit être réelle et elle doit se concrétiser par des changements dans nos vies afin qu'on puisse plaire à Dieu et surtout être utile entre ses mains. Cette foi, elle se construit et elle s'affermit jour après jour en ayant une vraie relation avec Dieu, donc, c'est-à-dire en lisant la Bible, en priant. Et cette foi-là nous permet de voir entre guillemets plus loin, donc, c'est-à-dire être certain de l'avenir, de l'arrivée pardon, d'un avenir meilleur avec la fin de ce monde et le début d'un autre grâce au retour de Jésus. Alors la foi, c'est ce qui va nous permettre de nous appuyer, de nous accrocher au quotidien aux promesses de Dieu. Et c'est grâce à elle que ces promesses peuvent se réaliser dans nos vies. Le problème, c'est qu'on a tendance à voir la vraie valeur de la foi que quand on est en difficulté. Pourtant, notre foi vis-à-vis de Dieu, elle doit être la même dans les bons comme dans les mauvais moments. Elle ne peut pas dépendre de nos états d'âme et des circonstances. Je sais pas, c'est comme si on avait un ami auquel on s'intéressait que quand on en a besoin, que quand nous, on est en difficulté. Et que quand tout va bien dans nos vies, là on prend même plus de nouvelles, on s'intéresse pas à lui, on fait rien avec lui. Avec Dieu c'est à peu près la même chose. Quand on regarde la vie des grands hommes de la Bible ou d'hommes d'époque un peu plus récente, on s'aperçoit très vite que c'est leur foi qui les distinguait des autres et qui leur a permis d'accomplir ce qu'ils ont accompli. Il y a plein d'exemples, moi je vais prendre celui de Desmond Doss. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un adventiste du 7e jour qui a participé à la Seconde Guerre mondiale en tant qu'infirmier et qui, grâce à sa foi en Dieu, qu'il a démontré notamment fermement par ses prises de position au sujet du port d'armes. En fait, il ne voulait pas porter d'armes du tout. Même si on a essayé par tous les moyens de l'y obliger, il ne voulait pas porter d'armes parce que tuer quelqu'un, c'est un péché. Et malgré ça, il a quand même réussi à sauver 75 personnes sans utiliser d'armes. Et du coup, il a changé le cours du combat auquel il a participé. Je dis ça parce que, je vais vous spoiler un petit peu le film. Y a un moment où ses camarades ne voulaient même plus aller combattre tant qu'il n'était pas là, tellement sa présence les rassurait. Et voilà. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est Tu ne tueras point. C'est un film qui vaut vraiment, vraiment le coup de voir. Par contre, il est extrêmement violent. Après, c'est un peu logique parce que c'est un film de guerre. Mais du coup, il n'est vraiment pas adapté aux enfants. Alors, au cours de nos cheminements personnels sur la voie que Dieu a tracée pour chacun d'entre nous, il va nous arriver de passer par des moments vraiment compliqués et d'avoir toutes sortes de problèmes. Mais dans ces moments-là, aussi compliqués soient-ils, il faut se rappeler que ces difficultés, elles sont là pour nous faire grandir et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est un verset qu'on trouve dans Romains 8, au verset 28. Et il est également important dans ces moments-là de se rappeler déjà tout ce que Dieu a fait pour nous auparavant. De regarder un petit peu en arrière et de se souvenir tout ce dont quoi Dieu nous a sortis. Et il faut s'approprier réellement les promesses de Dieu, pas juste les lire en deux spies dans la Bible. Après, je sais que c'est facile à dire et en situation, c'est difficile à faire. Mais c'est vraiment important de se les approprier et de réellement y croire. Et bien sûr, il faut continuer d'avoir une relation avec Dieu pour ne pas sombrer complètement dans le désespoir, la tristesse et l'incrédulité. Après, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est en priant avec foi que Dieu pourra agir dans nos vies et résoudre nos problèmes bien au-delà de toutes nos espérances. Alors, avec tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, j'en suis sûr que vous avez compris que la foi, c'est le premier et le plus important des éléments qu'il nous faut pour atteindre la réussite à laquelle Dieu nous destine, parce que c'est elle qui va donner un sens à tous les combats que nous menons et qu'on va mener, et qui nous permet de garder espoir quand tout va mal. Alors, je vais conclure cette partie avec un verset qu'on trouve dans 1 Jean au chapitre 5, au verset 4. « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Alors, la deuxième clé, c'est l'amour de son prochain. C'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais finalement, quand on cherche à réussir, non pas selon la vision du monde, mais plutôt celle de Dieu, ben en fait, ça prend tout son sens parce que, comme on l'a vu plus haut, la réussite, ça correspond entre autres à utiliser pour notre prochain les dons, les talents que Dieu nous a donnés. Ça, c'est Dieu nous incite à les utiliser, non pas pour se croire meilleur que l'autre, non pas pour écraser l'autre, mais plutôt pour témoigner de lui, pour inciter les gens à venir à Dieu, à entamer une relation avec lui, à avoir la foi, etc., etc. Et ça, justement, ça implique d'être rempli d'amour pour ceux qui nous entourent. Et cet amour-là pour notre prochain, c'est le résultat même de la relation qu'on entretient avec Dieu. Et c'est ça qui va caractériser celui qui se laisse transformer par Dieu jour après jour. Et comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 13, alors je ne vais pas lire le texte, mais vous, je vous encourage à le lire de votre côté. En fait, toutes les aptitudes qu'on pourrait avoir, aussi grandes seraient-elles. Donc, par exemple, si tu es chaud, je sais pas moi, en montage, si tu chantes bien ou si tu parles 50 000 langues, en fait, tout ça, c'est inutile si dans leur utilisation, on ne se laisse pas guider par l'amour que Dieu veut mettre en nous. Et ça, c'est une des plus grandes différences avec la réussite entre guillemets du monde. Parce que elle va en fait, elle va nous amener à être dans une dynamique complètement opposée, où on va être omnubilé par nos intérêts personnels, on va voir notre prochain comme un ennemi, un concurrent, et bah, si il représente un obstacle à la réalisation de nos objectifs, bah, là on va chercher à s'en prendre à lui, et voilà. Et donc là on sera dans une dynamique complètement opposée à celle de Dieu. Là, le meilleur exemple que je puisse prendre, c'est tout simplement celui de Jésus, qui a parfaitement accompli le plan que Dieu avait pour lui, et donc qui a réussi, si on se base sur la définition qu'on a vue juste avant. Et justement, Jésus est venu sur terre, a quitté son confort, il s'est fait homme, il nous a enseigné, et au final, il s'est sacrifié pour nous, donc du coup, pour son prochain, et tout ça par amour, donc dans un but complètement désintéressé. Donc pour conclure cette partie, j'en suis sûr que vous avez compris que l'amour doit donc être la source de toutes nos entreprises et ça doit être aussi le carburant qui nous permet, qui nous permettra d'avancer sur le chemin de la réussite. Bon là, on a vu la foi, on a vu l'amour de son prochain et là, on va attaquer la détermination. Bon là, je vous apprends rien. Le chemin de la réussite, c'est un chemin qui est long, qui est difficile. Et c'est pour ça que c'est vraiment nécessaire et même indispensable d'être déterminé avant de s'y engager. Et pour ça, il faut d'abord fixer les yeux sur le but, sur l'objectif final, et être prêt à payer le prix pour l'atteindre coûte que coûte. C'est vraiment important de se fixer un objectif qui nous dépasse, parce que ça va nous pousser justement à nous-mêmes nous dépasser. Par exemple, quelqu'un qui a toujours vécu dans la précarité ou une grande partie de sa vie, bah lui, il sera clairement déterminé, il va charbonner pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir enfin avoir des sources de revenus, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et pour la foi, c'est pareil. Il faut qu'on se fixe un objectif qui nous dépasse, et cet objectif, bah, c'est la vie éternelle, qui n'est accessible mais qu'avec Dieu. Et justement, il ne faut pas oublier qu'en tant que chrétien, la réussite ultime et finale de notre vie, elle réside dans le salut. Et ça implique de faire des sacrifices ici-bas, de s'engager corps et âme dans la réalisation du plan que Dieu a pour nous. Et ça, je trouve que cette idée, l'apôtre Paul l'illustre bien dans les versets 24 et 25 de 1 Corinthiens 9. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous, nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Donc là, bah, comme le dit Paul, bah, de la même manière qu'il y a des sportifs qui s'entraînent tous les jours, jour et nuit, qui se lèvent tôt, qui se couchent tard pour gagner des trophées, pour battre des records. Donc, je sais pas, moi, par exemple, Mbappé qui se lève tous les matins, qui va à l'entraînement avec le PSG pour gagner le Ballon d'Or, pour remporter des titres, pour gagner la Ligue des Champions. Bah, nous, en tant que chrétiens, on doit être encore plus déterminés à remporter la plus belle des récompenses qui est donc la vie éternelle. Et on doit être prêt à en payer le prix. Tout à l'heure, je parlais de sacrifice. Mais des fois, il va falloir être prêt à mettre de côté des choses qui comptaient beaucoup pour nous, à passer moins de temps, oui, sur des choses qui sont certes importantes, mais moins que passer, par exemple, du temps avec Dieu. Enfin, être prêt parfois à mettre de côté certaines relations et plein d'autres choses. Donc voilà. Après, on verra par la suite que la détermination, c'est bien, mais ça suffit pas. Alors, la quatrième clé qu'on va voir, c'est le travail, ou autrement dit, le charbon. Alors, comme on vient de le voir, la détermination, c'est bien. C'est même essentiel pour pouvoir réussir. Mais en fait, elle est inutile si elle n'est pas suivie d'un travail qui est acharné, sérieux et rigoureux. Moi, par exemple, depuis la rentrée, je vais à la salle. Donc, je suis clairement déterminé à devenir stock, normal. Mais en fait, cette détermination-là, elle ne sert à rien si je ne suis pas sérieux, si je ne suis pas régulier dans mon travail, dans les exercices, etc., etc. Comme je le disais tout à l'heure, Dieu nous a donné à tous des dons, des talents, des aptitudes pour qu'on puisse les mettre à son service. On n'est pas obligé, bien sûr, Dieu nous donne le choix. Et Dieu nous donne tout ça pour qu'on puisse amener le plus grand nombre de personnes à le connaître. Mais le truc, c'est que ces dons, ces talents ne sont pas des produits entre guillemets finis. Non. On doit les travailler pour les développer et les perfectionner. Et je trouve qu'il y a une parabole qui illustre bien cette idée. C'est la parabole des talents et on la retrouve dans Matthieu 25. Alors, ce que nous dit cette parabole, c'est qu'en fait, il y avait un maître d'une maison qui est parti pour un long voyage et qui, juste avant de partir, a donné à chacun de ses serviteurs des talents pour qu'il les fasse fructifier pendant son absence. Après, dans cette parabole, c'est vrai que ce sont des talents d'argent, mais le principe reste le même. Ça implique du travail. Et de la même façon que le maître, à la fin de la parabole, quand il revient de son voyage, il demande des comptes à ses serviteurs, sur la façon dont ils ont géré l'argent. Ben, Dieu aussi nous demandera des comptes sur la façon dont on aura utilisé les dons, les talents, les capacités qu'il nous a donnés. Et de la même façon qu'on doit travailler pour perfectionner nos dons, nos talents, etc., etc., on doit surtout travailler pour notre salut, comme le dit l'apôtre Paul dans Philippiens 2 au verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Il faut savoir que le salut n'est pas acquis, il s'obtient avant tout par la foi, mais aussi par des choix, des prises de position, une relation avec Dieu, etc., etc. Donc vous avez compris avec tout ce qu'on a dit juste avant que le travail c'est essentiel pour pouvoir réussir. Et il faut savoir aussi que ce travail-là, il est bien souvent long et compliqué, et il demande donc de la persévérance. Malgré tout, il ne faut pas oublier que Dieu est à nos côtés et il veut par-dessus tout nous aider, si toutefois on lui demande avec foi. Je suis sûr qu'avec ce qu'on a dit avant, vous avez capté quelle serait la cinquième clé. C'est la persévérance. Et justement, on a vu que la réussite, elle est impossible à atteindre sans travailler. Le truc, c'est que le travail qui permet d'y parvenir, il est rarement productif, fructueux du premier coup. Bien souvent, au contraire, il faut s'arrêter, se remettre en question, changer de méthode pour pouvoir continuer et aller de l'avant. Et c'est à ce moment-là que la notion de persévérance, elle intervient. Tout à l'heure, on a vu que la réussite, c'est aussi se laisser transformer par Dieu. Et ça, vous le savez aussi bien que moi, ça demande du temps. Et ça nécessite vraiment beaucoup de persévérance. Travailler sur ses défauts de caractère, changer ses façons de faire, ça, c'est pas quelque chose qu'on arrive à faire du premier coup. Non, ça demande du temps, de la patience et de la persévérance. C'est comme, par exemple, je sais pas, un ouvrier, ceux qui ont construit, par exemple, la tour Burj Khalifa à Dubaï, on ne construit pas un tel édifice en deux-deux. Non, c'est une brique après l'autre. C'est vraiment pas à pas. C'est pareil quand un marathonien fait une course, fait un marathon ou un trail, c'est vraiment pas à pas, c'est de la persévérance, c'est du mental. Et c'est pareil pour la foi, pour avancer avec Dieu. Moi, par exemple, il y a 2 ans, j'ai dû passer un concours avant de rentrer dans mon institut. Et ce concours-là, il est vraiment difficile. sélectif. Et c'est vrai qu'à plusieurs moments, j'ai eu la tentation d'abandonner, d'arrêter. Surtout que je voyais pas mal de gens autour de moi qui abandonnaient. Je voyais la fac aussi qui se vidait jour après jour. Et finalement, ce qui a fait la différence entre ceux qui ont réussi et ceux qui ont échoué, bon, outre le fait que c'est vrai qu'il y avait un nombre de places limitées, etc., etc., bah, c'est vraiment le travail, c'est vraiment la persévérance. Ce n'est pas les capacités intellectuelles, ce n'est pas le génie des étudiants, c'est vraiment cette aptitude à persévérer, à travailler tout au long de l'année avec sérieux, avec rigueur. Et voilà, moi par exemple, j'étais vraiment très loin d'être le plus brillant de la fac. Mais grâce à Dieu, j'ai pu avoir ce concours au bout de deux longues années quand même. Mais voilà, j'ai pu persévérer parce que c'est parce que j'ai persévéré. Et justement, la persévérance, c'est vraiment indispensable pour avancer sur la voie que Dieu a tracée pour chacun d'entre nous. Parce que cette voie-là, c'est très loin d'être un long fleuve tranquille. Au contraire, elle est semée d'embûches, d'obstacles. Et la réussite, elle est inatteignable si on baisse les bras dès la première difficulté. Et comme la route qui mène vers le succès, c'est une route qui est longue, qui est difficile, qui est périlleuse, bah c'est vraiment nécessaire d'avancer pas à pas. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'être patient et de ne pas laisser les échecs, le doute ou le défaitisme nous détourner de notre objectif. Et ça, c'est valable pour tous les domaines de notre vie, mais plus particulièrement, vous en doutez bien, pour la foi. Et ce qui est bien, c'est que dans la Bible, il y a pas mal de versets qui nous encouragent à persévérer en toutes circonstances. Et ces versets nous montrent aussi que c'est vraiment la persévérance qui fera la différence entre les croyants qui seront fidèles à Dieu jusqu'au bout et ceux qui ne le seront pas. Par exemple, dans Hébreux 10 au verset 36, qui nous dit: Car vous avez besoin de persévérance afin que, qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis, ce qui vous est promis, pardon. Et dans Matthieu 24 au verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bon, alors là, on approche vraiment de la fin de l'épisode. Il nous reste deux clés à voir. J'espère que pour vous, ça se passe bien de votre côté, que je vous ai pas endormi. En tout cas, là, on va aborder la sixième clé qui est savoir accepter l'échec. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'échec, ça fait partie intégrante du processus de réussite. Et c'est pour ça que c'est vraiment nécessaire de savoir comment y faire face pour qu'on puisse en tirer tous les bénéfices possibles. Quand on échoue, bien que ce soit très dur, il ne faut pas se laisser envahir par la colère, la déception et la tristesse. Bon, après ça, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est vraiment important. Tout en se confiant en Dieu, il faut quand même chercher, il faut analyser les causes de notre échec, chercher à comprendre ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas marché, trouver ce qui nous a fait tomber et pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est vraiment important, c'est impératif de comprendre que l'échec, c'est pas une fin en soi et que ça ne nous définit pas. Aussi nombreux peuvent être nos échecs. On peut avoir échoué, je sais pas, 10 000 fois sur une épreuve ou sur je sais pas quoi, mais c'est pas ça qui va faire de nous des perdants. Mais c'est plutôt l'attitude qu'on va décider d'adopter face à cet échec ou ces échecs. Peut-être que certains d'entre vous, vous passez peut-être par des moments difficiles où vous avez échoué sur le plan, je sais pas, professionnel, relationnel ou spirituel. Mais il faut pas lâcher, il faut pas abandonner, il faut pas surtout pas se dire que bah c'est fini, on n'y arrivera jamais. Non. Mais c'est vrai que c'est dans ces moments-là qu'on voit que les notions de foi, de détermination et de persévérance, elles sont vraiment indispensables pour se relever et aller de l'avant. Il y a un livre que j'ai lu il y a pas longtemps, enfin je l'ai pas vraiment lu, c'était une version audio, mais bon, peu importe, qui s'appelle Tout le monde a un mindset de Sudhi. Je pense que vous le connaissez, c'est un coach de motivation qui est assez connu sur Instagram. Et il disait que l'échec est une expérience enrichissante parce qu'elle procure des résultats auxquels on ne s'y attendait pas. Et c'est ça qui va nous permettre d'apprendre et d'être plus fort pour les épreuves à venir. Et il faut pas oublier que Dieu, il sera toujours là pour nous pardonner, pour nous aider à surmonter nos échecs et à atteindre la réussite finale. Alors il y a un verset, je trouve, qui illustrait bien cette idée-là. On le trouve dans Proverbe 24 au verset 16 qui dit « Celui qui agit bien peut tomber 7 fois, il se relèvera toujours. Au contraire, ceux qui agissent mal sont renversés par le malheur. » Nous voici donc à la 7e et dernière clé de l'épisode. Franchement, pour moi, c'est vraiment la plus dure à mettre en application pour atteindre la réussite. Et du coup, cette clé, c'est l'humilité. Tout à l'heure, on a vu toutes les clés pour atteindre la réussite. Mais quand on a atteint cette réussite, quand on a atteint tous nos objectifs et qu'on regarde tout le chemin qu'on a parcouru, c'est normal d'être rempli de fierté. Le problème, c'est que bien souvent, cette fierté elle donne naissance à de l'orgueil. Et cet orgueil nous incite ensuite à surestimer nos capacités, à rabaisser ceux qui nous entourent, à être ingrat et oublier toute l'aide que Dieu nous a apportée et même, dans certains cas, à voler la gloire qui lui revient. Le truc, c'est que quand on laisse l'orgueil nous remplir, en fait, on s'éloigne de Dieu et on ne peut plus être sous son influence. Et donc, Dieu ne peut plus nous guider, nous protéger et nous empêcher de tomber dans les pièges de l'ennemi. Quand on s'intéresse à certains personnages bibliques, donc par exemple Joseph, Daniel ou encore le roi Salomon, il y en a plein d'autres, on s'aperçoit très vite qu'en fait ils étaient tous humbles et que c'est grâce à cette humilité que, entre autres, que Dieu a pu les bénir et les faire devenir ce qu'ils sont devenus et leur permettre d'accomplir ce qu'ils ont accompli. Et à contrario, il y a plein d'histoires, notamment dans les livres des rois, qui nous montrent tous les ravages que peut provoquer l'orgueil. Et c'est souvent les mêmes d'ailleurs ces histoires. C'est par exemple un roi, à chaque fois que Dieu les bénissait, que l'argent rentrait dans les caisses, qu'ils avaient la victoire dans leur conquête militaire, mais souvent justement là ils prenaient la grosse tête, ils s'enorgueillissaient et Dieu ne pouvait plus les bénir, être avec eux. Et bien souvent là, ces rois-là, quand ils ne se repentaient pas, ils ont connu une fin tragique. Donc soit ils finissaient assassinés, ou il y avait plein de malheurs qui leur arrivaient. Et c'est vrai que ça, je crois que l'orgueil, c'est vraiment un truc typiquement humain. Parce que c'est très facile de prendre la grosse tête, très facile de plus sentir quand on a une augmentation, quand on a enfin notre diplôme après nos études, ou quand, je sais pas, on a une source de satisfaction. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'humain et qui est vraiment dangereux et contre lequel il faut lutter avec Dieu. Et justement, on ne se rend pas assez compte de l'impact négatif que peut avoir l'orgueil, non seulement sur nous, mais aussi sur ceux qui nous entourent, parce que du coup, on ne peut plus exercer sur eux l'influence que Dieu voudrait qu'on ait. Et c'est pour ça que l'humilité, c'est vraiment indispensable pour pouvoir rester accroché à Dieu et réussir. Et c'est vrai que quand on est humble, on n'est plus à même à écouter les reproches qu'on pourrait nous faire, les remarques, et écouter aussi les conseils qu'on pourrait nous donner. Et si Dieu nous a donné le succès, c'est pas pour qu'on se croie supérieur aux autres, mais c'est plutôt pour lui rendre gloire et utiliser notre réussite pour le bien de notre prochain. Par exemple, si Dieu te permet d'être un grand médecin, un grand ingénieur ou un très bon ouvrier, c'est pas pour flex, c'est pas juste pour toucher un énorme chèque à la fin du mois, mais c'est vraiment pour être utile à ton prochain et pour rendre gloire à Dieu. Tout à l'heure, j'y ai pas pensé quand je parlais de l'impact négatif que notre orgueil peut avoir sur ceux qui nous entourent. Mais il y a vraiment un bon exemple dans la Bible qui illustre ça. C'est tout simplement celui du Pharaon dans l'histoire de Moïse. Parce qu'il a été orgueilleux et parce qu'il n'a pas voulu obéir à Dieu, se soumettre à ses commandements, se soumettre à l'ordre qu'il lui avait donné de laisser le peuple d'Israël partir d'Égypte. Une énorme partie de sa population, dont son propre fils, a perdu la vie. Et voilà, donc à cause de l'orgueil d'un seul homme, beaucoup de vies ont été perdues. Donc je trouve que ça veut tout dire. Et c'est pour ça que quand on a réussi, quand on a atteint tous nos objectifs, quand on a percé, c'est important vraiment de rester en relation avec Dieu, en priant, en lisant sa parole, en le laissant nous transformer, pour qu'on puisse rester humble, pour qu'on puisse continuer à lui rendre la gloire qui lui revient, et rester utilisable entre ses mains. Alors je vais conclure cette 7e et dernière partie avec deux versets. Le premier, on le trouve dans Proverbe 16, c'est le verset 18. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Le deuxième, on le trouve dans Philippiens 2, au verset 3. Il nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà, nous voici à la fin de l'épisode. Alors, pour conclure, ce que je pourrais dire, bon déjà, je suis désolé parce que je voulais tellement aller vite que j'ai oublié d'écrire la conclusion, donc on va dire que je l'ai fait en live, entre guillemets, donc ce sera un peu en mode freestyle. Mais en tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que vraiment, c'est important de ne pas se tromper de réussite, de ne pas chercher à réussir selon le monde, mais plutôt à réussir selon Dieu, selon son plan divin. Et pour ça, il faut vraiment être en relation avec Dieu pour ne pas se laisser tromper, pour vraiment être attentif à ce qu'il veut pour nous. Et ce qui est bien, c'est que dans la Bible, Dieu nous donne justement des clés pour pouvoir réussir. Et ces clés, ce sont, ben, on l'a vu, hein, ce sont la foi, l'amour de son prochain, la détermination, le travail, la persévérance, le fait d'accepter l'échec, de savoir accepter l'échec et l'humilité. Et avec ces principes-là, on est armé pour pouvoir réussir comme Dieu le veut. Et du coup, j'ai aucun doute que vous qui m'écoutez, que toi qui m'écoutes, vous réussirez et vous allez d'être ça, vraiment. Voilà, l'épisode est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté, d'être arrivé jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a édifié, que vous allez pouvoir réussir du coup, si ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. L'épisode 4, je sais sur quoi il va porter, je suis quasiment sûr. Je ne peux pas vous dire quand il sortira parce que vraiment ça dépendra du temps que j'ai. Mais je vais tout faire pour qu'il arrive le plus vite possible et que ce soit du contenu de qualité. Et voilà. En tout cas, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.